Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Yannick Dahan.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis, je suis votre hôte. Et aujourd'hui, chose promise, chose due.
Ah, tu l'avais promis.
Je l'avais promis dans une émission de Saltan pour un film. J'avais dit, on va aller voir avec mon ami Yannick Dahan.
Ouais.
Salut Yannick.
Salut.
On va aller voir Expendables 4 en amoureux. Parce qu'en fait, voilà, c'est notre petit truc à nous, Expendables, il faut le dire à la base.
C'est...
Et toi, t'appelles ça les Yakayo. Moi, j'ai pas de nom. C'est, pour moi, ils sont un absolu, ces gens-là. Voilà, quoi. Je les appelle papa, tonton, tu vois. Donc Expendables 4 qui est sorti en salle cette semaine, le 11 octobre en France. Après un four monumental aux États-Unis.
Et totalement justifié,
effectivement. Bah voilà, t'as vendu la mèche. On allait peut-être faire semblant que il est pas mal, les gars, allez le voir. Mais en fait, pas du tout.
C'est pas sauvable.
Puisque t'as voulu commencer à en parler, vas-y. Alors, est-ce que tu peux me pitcher le film? Parce que là, ça, c'est quand même assez génial.
Ah, puis, alors, pitcher le film, c'est chaudard quand même.
Déjà, moi, j'ai pas compris c'était quoi l'enjeu.
L'enjeu, c'est toujours comme
des trucs nucléaires
à la con, avec des méchants qui veulent faire péter un truc quelque part et on en voit. À Expendables, mais c'est absolument, là je crois que c'est absolument indéfendable. Je crois que même tous les deux on est ressortis, on était atterrés, parce que là pour moi c'est même plus l'Expendables. Tu dis, tu les appelles tonton, tu les appelles, non, il faut les appeler papy, il faut les appeler grabataire.
Non, un peu de respect
là. C'est la 7e compagnie des Expendables. C'est les Expendables de l'Archouma. Je sais pas ce qu'on peut dire, tellement c'est pas possible, quoi. Et moi ce qui m'a fait halluciner, parce qu'on va pas trop parler tous les deux ensemble, mais
on n'a pas eu le temps.
Dès le début, c'est du nimp. Alors moi, j'ai déjà en termes de montage, tout ça, tu t'hallucines dès le départ. Le film il commence, t'es en Libye. T'as le mec du raid là qui, j'arrive jamais à retenir son nom, l'acteur là.
Ico Uwais.
Uwais, voilà, donc qui est un des méchants du film, qui attaque.
Un des méchants, parce que attention, il faut le dire, on spoil, comme d'hab dans ces émissions là.
Il y a plusieurs méchants.
Voilà, il y a plusieurs méchants.
Dont un, c'est une révélation absolument hallucinante. Et alors, il débarque. Non, mais ça, c'est ouf. Moi, j'ai trouvé ça ouf au départ. Il débarque dans l'usine comme ça en Libye. Alors, tu comprends qu'ils viennent buter un général pour voler des détonateurs.
Un général, mais ce qui est encore, c'est Team America, le truc.
Oui, c'est-à-dire que le général qui mange
des falafels avec sa femme.
avec sa femme, sans déconner, quoi. Et ils arrivent pour lui piquer des détonateurs. Mais alors, ce qui est génial, c'est qu'ils butent des mecs. OK. Tu vois apparaître le méchant là, le mec de The Raid, qui sort d'un tank, fondu au noir. Ok, en plein milieu de la scène, hein, tu vas au fondu au noir, je suis d'accord. Là, t'as une espèce de plan improbable autour d'une moto qui te montre Stallone qui...
C'est la présentation de Barney.
Voilà, la présentation de Barney qui te montre Stallone qui fume son cigare, il se barre.
Avec sa moto.
Expendables.
4.
Et alors là, je sais plus dans quel ordre c'est, mais il se passe plein de trucs dans la vie des Expendables, c'est-à-dire que tu découvres une espèce de fight conjugal entre Jason Statham et Megan Fox. Il se passe, et à chaque fois, tu reviens dans la continuité de la scène en Libye, tu vois, où pendant que t'as l'impression qu'il s'est passé 3 jours là-bas, tu reviens, le mec, il est sorti de son char, il va aller chercher le type. Et ce qui est ouf, c'est que les Expendables arrivent alors que les mecs, ils sont toujours dans l'usine.
Ouais,
t'as l'impression que ça fait 4 jours qu'ils se préparent à venir. T'es là, tu dis, vous foutez de la gueule du monde, c'est pas possible.
Parce que très probablement, le monteur, enfin, ou le prod, il a dû se dire, attends, mais il n'y a pas une seule scène d'action avant 10 minutes.
Ouais, c'est ça.
Ça va pas, là, on fait Expendables et tout, tu vois.
Mais ça n'a aucun sens. Combien même tu pourrais le justifier par une timeline différente, tu vois ce que je veux dire, que t'entrecroises, c'est tellement fait n'importe comment que dès le départ, t'es largué du truc.
Mais c'est marrant parce que t'as ce problème-là. Mais t'as aussi, c'est quand même entre, alors déjà chez Chirurgie Esthétique le film, ils ont tous refaire la gueule, même Statham il s'est un petit peu fait lifter,
non,
ensuite c'est arthrite le film, parce que les mecs ils ont, ah mes genoux, il faut marcher, mais là on a besoin de vous pour un gros plan là, un plan large où vous marchez, et les mecs tu vois qu'ils n'y arrivent pas et tout quoi, c'est un enfer.
Parce que là on parlait du scénar, mais c'est vrai que quand tu regardes le truc dans son ensemble, tu te dis c'était tout ce qu'il fallait pas faire. D'abord, disons-le clairement, déjà... Expendables 2 et 3, c'était pas des chefs-d'œuvre, et le 3 était limite insupportable. Là, c'est de la série Z. On est quand même dans la série Z qui aurait mérité de sortir.
C'est-à-dire que c'est aussi fond vert le film, parce que tout est tourné sur fond vert.
Ça, c'est le réal dont je retiens jamais le nom. Donc toi, t'avais vu Need for Speed.
Moi, t'as trouvé
pas trop mal.
Je trouve ça sympa. Après, je l'ai revu une fois.
Moi, la seule chose que j'ai vu du mec, c'est Hidden Strike avec Jackie Chan et John Cena, où dès le départ du film, tu te dis, c'est fond vert sur fond vert sur fond vert, c'est dégueulasse. C'est prétendument pété quantité de thunes, mais en fait, c'est que du cache-misère de partout. Là, c'est que ça. C'est infect. Mais le plus triste dans le truc, c'est bon, alors on y reviendra peut-être. Bon, je sais même pas si ça mérite d'être très sérieux, mais c'est dénaturer complètement le. En fait, t'as l'impression de dire pourquoi vous appelez ça expandable. Enfin, en quoi désormais c'est un expandable. C'est-à-dire que là, les mecs, comme tu dis, sont grabataires. Ce qui fait peine, hein, quand même. Tu te fais chier à avoir Dolph Lundgren, le pauvre Dolph Lundgren. Quoi, il fait pas un truc de déjà, tout y a le
deux
film. Trucs.
Attends, il y a deux trucs, il faut dire. Il y a deux nouveautés avec Dolph Lundgren. Dolph Lundgren, en fait, il a les cheveux longs dans celui-là. Ouais, en voilà. Plus, c'est même pas. Il lui dit. En fait, pourquoi la raison c'est quoi la raison tu vois,
parce
c'est
qu'il drague une meuf sur Internet. Quoi.
Voilà. Ah, et en fait, quand les mecs disent tu l'as rencontré, il fait non. Et en fait, c'est une perruque en plus. Ouais, non, c'est même pas, ils le disent. Donc la scène, elle est complètement. Tu te dis, ok, mais vous avez écrit ça sur un coin de table et vous lui avez filé la page, quoi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en fait, il a des. il est sniper dans celui-là, ouais, non ouais. Et il a un. Comment t'appelles ça un scope de précision, mais en fait.
Il a des lunettes.
Prescrit par le médecin.
Parce qu'il a des lunettes.
Voilà. Voilà. Sauf que dans la scène d'action. En fait, il n'est pas foutu de placer un seul chelas, voilà, quoi. Ça. Non, et ça, parce qu'il a arrêté de boire, soi-disant.
Alors, bon, on en parlait de ça. Moi, je trouvais que ça aurait pu être dans un film normal, correctement fait, de jouer un personnage, même sous forme de blague, qui est un sniper, qui perd la vue, qui est obligé de mettre des lunettes, qui n'arrive pas, et il n'arrive pas en raison aussi parce qu'il a arrêté de boire, et qui, dans la scène finale, se dit « Allez, je vais picoler un coup parce que j'en ai ras le cul, et je vais devenir bon », ça aurait pu être marrant si ça avait été bien fait dans un bon film.
S'ils font l'espace d'un plan.
Ils essayent de faire, mais qu'ils n'y arrivent jamais. Mais tout n'a ni queue ni tête dans ce film. Puis surtout, j'ai envie de te dire, c'est pas ça. C'est-à-dire que là, il y a un côté quand même triste dans le sens, c'est pitoyable. C'est-à-dire, il n'y a plus personne. Même t'as Statham qui est le seul à donner deux coups de tatate dans le film. T'as Randy Couture qui est toujours là. T'as Dolph Lundgren qui est toujours là. C'est les seuls. Ils sont grabataires, ils bougent plus, Stallone. Tu vas expliquer.
Il faut en parler.
Mais qui n'est pas là pendant tout le film.
Il est là un quart d'heure.
Donc en fait, tu viens voir prétendument sur un Expendables, les anciennes gloires du cinéma d'action, il t'en reste plus que deux, une sur deux ne fait strictement rien. Les nouveaux qui viennent, tu te dis pourquoi Megan Fox, pourquoi 50 Cent, pourquoi limite même Andy Garcia, pourquoi la chinoise là qui sort de on ne sait où parce qu'elle a fait un Fast and Furious dans sa vie, personne ne sait qui c'est. Et aucun ne fait rien dans le film.
Rien.
Mais strictement rien, quoi.
Si. Alors, mais attends, parce que.
Enfin, une micro-scène de 3 secondes sur chacun d'eux.
Alors, attends, on va peut-être replacer un petit peu. Ça fait quand même 9 ans, hein, depuis Expendables 3. Ouais. Qui avait déjà été un bide.
Ouais.
Qui était aussi un film extrêmement problématique, hein, parce que qui pour moi, déjà en premier lieu, se foutait un petit peu de la gueule de son public, parce que, en gros, c'était un film avec soi-disant que des Jones qui vont reprendre la relève, ce qui quand même est littéralement antithétique avec le concept de base. En fait, ça n'a aucun sens en fait de faire ça avec le concept d'origine, tu vois. Autant faire Fast and Furious en fait dans ce cas-là, voilà. Enfin, et encore, c'était même plus vraiment des Jones déjà à cette époque-là. Mais alors le truc en plus, c'est que donc le film s'est bidé. Donc là, les mecs, en fait, ils t'ont vendu celui-là en disant « Attendez, on vous a entendu cette fois, on va refoutre du gore, machin », ce qui est vrai, en fait, dans l'absolu, mais ce qui est bon, vu qu'il y a
quasi... Trois bouts de son numérique, c'est
Mais ça, c'était comme dans le premier, on dirait, tu vois. Sauf que le premier, il y avait une rage, en fait, il y avait une envie de faire le film, en fait, ce qui était évidente. Là, plus personne se fait chier. Et donc, 9 ans après, il y avait des rumeurs comme quoi, en fait, ils voulaient faire un spin-off, en fait.
Ils auraient dû.
Sur
Statham.
Ouais, sur Statham.
Ils auraient dû.
Sur Lee Christmas, son personnage. Ouais. Et en gros, c'est probablement ce scénar-là qu'ils ont un petit peu récupéré. Et en fait, mélanger donc les scènes de mélange de fight conjugal, les scènes de ménage, à mon avis, c'était dans ce scénar-là. Ils les ont pris, ils les ont foutus là. Et donc t'as ce film parce que donc faut raconter parce qu'on a commencé à raconter la scène d'ouverture.
Oui.
Faut raconter la fin de la scène d'ouverture.
C'est pas le cœur du film.
Il faut raconter la fin de la scène d'ouverture. Donc t'as passé une petite baston très rapide dans un bar là en fait si tu veux où t'as Jason Statham qui a deux points américains et qui s'arrête 4-5 mecs d'un coup dont notre copain Jess Liodin qui était venu nous en parler sur dans Stéroïde et qui nous avait raconté que c'était vraiment une scène de bagarre assez rapide et on le voit, faut cligner des yeux, moi je le connais donc je l'ai reconnu évidemment quoi, mais ça va très très vite. Sorti de cette scène de bagarre où t'as Stallone qui va vaguement en fait soulever un gars et le balancer par dessus le bar quoi. La scène d'action de Stallone, c'est qu'il prend son avion cargo, qu'il commence à envoyer des missiles partout, là, enfin des à tirer sur le camp libyen là, tu vois, sur un espèce d'entrepôt en Libye, mais bon, tu vois bien que c'est en Bulgarie avec des rajouts numériques partout pour te faire croire que c'est là-bas quoi. Et donc dans cette scène, si tu veux, attention à ce que je t'ai dit avant de commencer le film, je t'ai dit, tu vas voir, ça va être étonnamment émouvant. Tu vois, et effectivement, c'est, tu vois, c'est incroyable. Ils te font, en fait, ils t'envoient un missile sur la gueule de Stallone, l'avion se crash, et là, on voit littéralement, en fait, c'est donc Stallone meurt.
Ouais.
Et on voit littéralement son corps, c'est une merguez, quoi. Ouais,
le truc, carbonisé complètement. Avec le béret. Tiens, il est carbonisé. Le béret, il est toujours là pour dire, hey, c'est Stallone, les mecs. J'étais là, putain, c'est énorme, quoi. Ils ont peur de rien, les mecs.
Et le truc, attends, les mecs, ils lui font une funéraille à la Expendables, tu sais, où en fait, ils jouent un, comment t'appelles ça, un concert dans le même bar habituel, là, ouais, tu vois. Leur bar, le bar des Expendables, ou je sais pas quoi, où ils ont récupéré son bras qui fait un doigt comme ça. Avec sa bague à lui. Et tu te dis, putain, ils auraient des couilles. ils auraient des couilles, ça serait vraiment la mort de Stallone, de Barney Ross dans la franchise, quoi.
Évidemment, ils ont pas.
Mais évidemment, c'est pas le cas. Alors, pour plusieurs raisons, enfin, tu le grilles. C'est même pas que tu le grilles, c'est tellement pas traité, en fait. C'est tellement pas traité au sérieux, cette scène.
Ouais,
enfin, en tout cas, tu peux pas la prendre au sérieux que tu te dis, et c'est tellement Z en plus. Ouais, enfin, t'es en train de regarder ça, t'es en train de te dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi.
C'est hallucinant.
Que tu sais, un, qu'il est pas mort. Donc, à la limite, tu te dis, le seul truc, éventuellement, c'est est-ce que c'est lui, le fameux Ocelot, qui cherche, tu sais, le méchant,
ouais, personne ne connaît l'identité,
et dont Randy Couture suggère peut-être qu'à un moment donné, il a été accusé d'être ce fameux Ocelot, tu vois, Barney Ross, quoi. Donc, c'était soit ça, soit, en fait, il a fait tout ça pour déjouer les plans, justement, du fameux Ocelot, quoi.
Et c'est ça,
en l'occurrence. Mais, en fait, tu le grilles...
Avec la grande révélation de qui est Ocelot, c'est le pauvre Randy Garcia. Qui est là juste pour faire des couilles, pour montrer. Enfin, il fait que des blagues pour montrer qu'il est burné dans le film. Mais à la limite, si tu veux, dans cette espèce d'absurderie Z où tout le monde se prend plus ou moins au sérieux alors qu'il y a aucune raison de l'être, au moins Andy Garcia, il en fait des caisses. Mais il est en roue libre. Ouais. Au moins, il est rigolo, quoi. au moins, lui, il est rigolo, quoi.
Ouais, mais c'est surtout, tu te dis, mais pourquoi Andy Garcia? Parce qu'Andy Garcia, il a fait quoi? Il a fait Les Incorruptibles?
Non, mais il a pas fait de film d'action.
Il a fait L'Enjeu.
Action, Andy Garcia, quoi.
Tu vois, les Ocean's Eleven, ça compte pas, en fait.
Ouais, non.
Tu vois, genre, je comprends pas le truc. Et alors, Andy Garcia, c'est pareil, on lui a dit, à mon avis, on a dû lui dire ça aussi, Andy Garcia, on a dû lui dire, bon, Andy, on va te mettre dans Expendables 4, tu vas être le méchant. Alors, il dit, attends, mais moi, il faut que je fasse de la muscu, alors. Non, t'inquiète. C'est bon, donc, en fait, pas de muscu.
Ils le mettent en uniforme militaire à un moment donné pour faire genre, petit essai casse.
Oui, mais c'est pareil. c'est pas pareil.
Non, mais il faut quand même le dire, ça. Avant même, au-delà de raconter l'histoire, tout est raté, mais tout. C'est pas que le scénar. C'est que, moi, c'est la première fois que même ces mecs, ils sont pas des grands acteurs, on le sait, mais il y en a, mais ils jouent, mais tous plus mal les uns que les autres.
T'as l'impression que c'est les premières prises.
Ah, mais c'est ça.
T'as l'impression qu'en fait, ils ont pas
fait. C'est pour ça que je disais la 7e compagnie, parce que c'est vraiment un niveau de nullité de jeu, et puis même d'implication de quelque forme que ce soit. C'est hallucinant.
Non, et puis avec des scènes un petit peu, en fait, tu vois, il y a des trucs, alors. Je sais que le cinéma d'action et ce cinéma d'action qu'on affectionne particulièrement avec une certaine, comment dire,
nostalgie,
mais même presque, en fait, j'ai envie de dire presque un petit peu de manière honteuse, parce que bon, faut quand même reconnaître que.
Bah, il y a des trucs pourris, oui.
Ouais, puis ça décrit pas forcément les grandes valeurs humaines, tu vois, ou je sais pas quoi, tu vois. T'as quand même des scènes comme ça.
Quand on aime ce cinéma, non, mais d'accord, mais t'as quand même des scènes.
T'as quand même des scènes, en fait, étranges, quoi. C'est-à-dire que t'as donc, en fait, parce qu'il faut raconter encore une fois ce que ça raconte, tu vois.
Ouais.
C'est-à-dire que, passer cette scène où ils enterrent, Stallone.
Ouais. Megan Fox devient la leader du groupe des Expendables.
Voilà. Alors pourquoi tu sais pas? Parce que, en fait, elle ne fait rien dans le film, c'est pareil. Elle devient la leader, ils partent sur un paquebot.
Ouais.
Tu vois, pendant que Jason Statham est viré.
Ouais.
Donc il prend un boulot.
Cette scène absurde, voilà. Un boulot de garde du corps d'un influenceur connard au possible, tu vois, dont tu t'attends évidemment.
Donc il est habillé comme le transporteur.
Ouais, c'est ça.
Ah, il est là comme ça en train de, comment dire, il est là comme ça en train de s'énerver parce que l'influenceur il traite les nanas de biatch et tout ça, etc. etc. Il fait, ah, tu parles pas aux femmes comme ça, tu vois.
Ouais.
Parce que les Expendables ils sont quand même, tu vois.
Alors qu'ils font des blagues pendant tout le reste du film.
Mais
là il fait le show. Chevalier blanc dans cette scène.
Exactement.
Okay.
Et donc, il tabasse la gueule du mec.
Ouais.
Il perd son job et il fait, bon, ouais, ça suffit les conneries, tu vois. Maintenant, je suis quand même un expendable, donc je vais me remettre dans la mission. Donc, en fait, il traque Megan Fox en lui filant un couteau sur lequel il y a un, comment t'appelles ça,
une balise, là.
Une balise pour la tracer. Et donc, il se retrouve sur le paquebot avec elle. Bah. Ce paquebot, ce que tu ne sais pas, ce que le film te dit pas, ouais, c'est que ça fait 40 minutes que ça a commencé, c'est la dernière heure du film, ça se passe là.
Donc, l'intégralité en fait, du film, ce faux paquebot tout mal fait d'ailleurs,
voilà, c'est ça, là, tu vois, avec des fonds verts partout. Tu vois.
Et où alors, t'as quelques scènes d'action absolument magnifiques où ils doivent balancer. Alors, je rappelle que dans la cale du bateau, il y a donc une bombe nucléaire qui est capable de faire péter un continent, et que quand ils se tirent dessus, les mecs, ils se balancent 200 grenades à la gueule, même à la fin, avec un hélico qui jette des roquettes et tout, et jamais la bombe elle explose.
Non, mais c'est pas seulement ça, c'est que t'as envie de leur dire, les gars, vous êtes sur le même bateau que,
ah non, mais
que
ce sur qui vous tirez, en fait. Il y a un mec à un moment donné qui dit, attention, tire pas, parce qu'il est à 2 mm de la bombe, quoi, tu vois, mais, non, mais dès que t'es la pièce à côté, c'est bon, il n'y a pas de problème, tu peux y aller, quoi.
Et donc, truc quand même assez génial, t'as une séquence d'infiltration absolument toute pétée là-dessus. Ah non, ils arrivent dans le truc, ils disent, mais il n'y a personne sur ce paquebot, tu vois, et là, d'un seul coup, ils rentrent dans une pièce et ils sont tous braqués.
Ouais, voilà.
Et ils se retrouvent tous dans une cale. Pour sortir de la cale, bon, t'as quand même un grand moment d'acting de Andy Garcia qui croit qu'il va se faire tirer dessus,
ouais,
et qui se fait hurler, on dirait Michel, non, mais, on dirait Michel Serrault, quoi.
C'est hallucinant.
Et donc, une fois que t'as passé ça, les mecs ils restent dans la cale comme des cons, ils attendent que Jason Statham vienne les sauver. Et donc on se retrouve, parce que c'est là où en fait je reviens à mon point sur l'espèce de déshumanisation totale pour des gags ou pour des trucs, tu vois. Mm. C'est que t'as des mecs qui sont en train de regarder la fameuse vidéo qui est devenue virale de Jason Statham qui, ouais, pète la gueule à l'influenceur. Ouais. Il dit, ah, c'est mon héros, j'aimerais tellement le rencontrer. Et là, Jason Statham, il rentre dans la pièce et il les bute tous au schlass.
Et d'ailleurs, il te fait même pas le plan du mec qui le reconnaît, qui aurait été le minimum pour jouer la blague, quoi. Bah, tu vois,
c'est ça, tu vois.
Il le fait même pas.
Et donc, tu dis, mais c'est
aberrant.
Pourquoi?
C'est aberrant.
Tu vois?
C'est-à-dire, parce que.
Mais ça valorise qui là-dedans? Ça valorise pas le héros, ça valorise pas, tu vois, les, non, enfin, ça dévalorise pas les méchants.
C'est des situations qui n'ont aucun sens. Donc, celles où ils sont enfermés, ouais, dont toute la scène n'a que pour vocation, au final, de faire une blague sur pipi, parce que le seul moyen de sortir, c'est de faire pipi sur une trappe pour pouvoir l'ouvrir. Donc, avec Randy Couture qui fait pipi, et les autres qui font, oh là là, ce plan hallucinant, tu vois. Donc, il est en train de pisser, et t'as la chinoise, qui, avec un espèce de regard lubrique, s'approche pour regarder son sgeg, quoi. Parce que c'est grosso modo ça, depuis le début du film.
Ouais.
Ils font des blagues sur la taille du sexe de Randy Couture, quoi. Enfin, on en est là dans le film, hein. Et puis l'autre, il dit, oh, je peux pisser tranquille, puis les mecs ils reculent, tu fais non mais attendez, là c'est pas possible, on est en dessous du niveau maternel, avec quand même les dialogues les pires que j'ai vus dans un film depuis hyper hyper longtemps. Et quand non, je dis c'est... la vacuité des scènes,
ouais,
c'est que toutes ces scènes qui n'ont que ça, c'est-à-dire celle-là elle est faite pour faire la blague, elles sont toutes justifiées a posteriori n'importe comment, avec Jason Statham qui arrive, qui les sauve, et l'autre il dit hey, j'avais prévu que t'allais venir nous sauver, t'es là, tu fais ok. Donc c'est super.
Ouais.
Non mais
le film, t'as l'impression que le film il s'est écrit tout seul.
Ah ouais,
t'as l'impression que c'est ChatGPT, on l'a dit, Expendables 4, ChatGPT, il a fait ok,
ah
ça.
Non mais c'est.
Et puis il est revenu avec le scénario.
C'est un renoncement de tout.
Alors paquebot.
Ouais, non. C'est un renoncement de tout. Et puis ça va, c'est comme le 3 qui était, tu disais déjà, qui va à l'encontre de ce que c'est un Expendables. Là, c'est même pas le film de trop. C'est fallait même pas envisager de faire un truc pareil. C'est plus un Expendables, ça n'a plus rien à voir. Le seul qui avait une raison d'être là à la limite, c'est Statham. C'est le seul qui a droit à 3-4 scènes de fight. Le mec, il a quand même Tony Jaa, qui est fondamentalement le seul mec à part Jason Statham dans le film qui est capable d'être encore impressionnant dans une scène de fight. Et les seuls moments où il se fight, c'est en plan serré. Et tu vois rien.
Ouais, et puis même
et là,
lui,
tu fais non mais
que ce soit lui ou Iko Uwais, c'est pareil. C'est,
oui,
c'est,
mais
parce que c'est les deux seuls qui sont à peu près jeunes, hein.
Oui, c'est
dans,
les
dans
c'est
le film. Mais encore non, enfin Tony Jaa, il commence un peu à accuser son âge, mais
oui, le mais bon, truc, il bouge quoi, tu ouais, vois. Non, il est comme Statham, il peut encore faire des scènes de
et
combat quoi.
Et on a vu qu'est-ce qu'il était capable de faire aussi, tu vois.
Mais c'est ça.
Voilà.
Mais il le fait, il fait des trucs, si tu regardes bien en termes purement physiques, il est capable de faire des trucs. Et à ce moment-là, le mec, il se dit non, mais je vais tout filmer en insert et plan serré. C'est mieux. Alors que c'est le seul mec qui pouvait mettre un minimum en valeur l'action martiale
et
dans le
film. Et après, il y a des trucs, donc, parce que ça, t'as ces deux Expendables qui ont été rajoutés. Enfin, il y en a un Expendables, l'autre c'est un méchant. T'as ces deux personnages qui ont été rajoutés. T'as donc Megan Fox. T'as.
Ce dont je parlais, donc c'est
voilà. Il y a
le fils de
le
Banderas,
fils de Banderas, tu vois, ça
dans
manquait.
Le film d'avant.
En fait, si tu veux,
t'as
les gars, on n'a pas eu Banderas, alors on va dire que c'est son fils.
Ah non, mais
et donc c'est le gamin qui joue dans Bad Boys for Life, ouais, là, qui joue le fils de Will Smith dans Bad Boys for Life, quoi, et qui pour le coup imite plutôt bien Banderas, quoi. Mais ouais, bon, ouais, enfin, bon, mais ça fait un peu. T'as envie de dire, ça, on en avait pas besoin, en fait.
Et le grand truc, c'est donc 50 Cent, hein, qui est censé être The Megastar, qui est, mais alors, joufflu, maintenant, tu dis, il ressemble vraiment à Papy avec des pancakes chez lui, avec ses petits-enfants, quoi. Et qui est là pour faire. Alors, c'est génial, parce que c'est le dernier arrivé dans la bande, on te le présente comme ça.
Easy Day,
le mec, il arrive. Et en fait, il est là pour faire la leçon de morale systématiquement aux autres. En fait, il décide tout. Tu sais pas si t'as remarqué, il décide tout à la place de tout le monde à la fin. T'as envie de dire, mais pourquoi? Je sais pas. Et tout le monde l'écoute, là. Et... Enfin, c'est... Ça n'a ni queue ni tête. Je sais pas quoi dire d'autre, en fait.
Il y a un grand moment, quand même.
Ah oui, lequel?
Avec 50 Cent, où à un moment donné, il fait péter son morceau de musique, là.
Ah putain.
Et c'est un morceau de 50 Cent.
Oui, c'est un morceau.
Et je crois, si je dis pas de conneries, que c'est le même morceau que dans Anatomie d'une chute au début du film. C'est-à-dire le film qui a eu la Palme d'Or.
Je n'ai pas vu Anatomie d'une chute.
Non, mais alors, donc il y a un morceau de 50 Cent au début d'Anatomie d'une chute. Donc, Anatomie d'une chute, Expendables 4, même combat.
Ouais,
j'ai envie de dire, tu vois. Expendables 4, Palme d'Or. C'est voilà, tout, quoi. C'est donc, non, mais à un moment donné. Non, mais voilà. Et bon, en fait, donc il y a ça. Il y a effectivement un petit peu de violence, mais c'est vraiment, enfin, c'est des
chlasses
dans la gueule, tu vois, c'est des
trucs.
Moi,
je pouvais, même dans le 3, tu vois, c'est-à-dire, même le 3 qu'on a tous trouvé nul, tu pouvais toujours avoir un perso qui te va, tu vois, moi, ça me faisait marrer Banderas de 2 minutes au début. Tu peux avoir un ou deux trucs comme Wesley Snipes, Mel Gibson. T'as quand même des mecs qui faisaient plaisir de les voir, tu vois, moi, ça me fait plaisir d'en voir toujours Mel Gibson ou Wesley Snipes. Là, il y a rien. Moi, c'est pas, tu vois, et puis même le concept de te dire, je vais faire un Expendables, et attention, mes deux nouveaux actifs, c'est 50 Cent et Megan Fox, t'as envie de dire what the fuck, quoi, c'est pas possible. Il y a un shift cognitif, en fait, quelque part qui
ouais, parce que bah, j'imagine que c'est à cause de son passif dans Transformers, tu vois. Bon, 50 Cent, c'est, je sais pas, c'est peut-être les jeux vidéo. C'est les jeux vidéo qu'il a fait. Tu as joué à ces jeux là moi j'y ai joué à Blood on the Sand.
Non, ça j'ai pas fait ça.
C'est 50 Cent, il fait un concert, ça je vous le conseille, le jeu, c'est un jeu sur Xbox 360 et PS3 à l'époque, tu vois.
C'est quoi?
Blood on the Sand.
Ah ouais.
C'est 50 Cent qui fait un concert, tu vois, à 50 patates. Le mec, le promoteur, il lui a mis 50 millions de dollars. Il se casse, en fait. Il lui fait non, je te paye pas. Il se barre, tu vois, avec un crâne en or, tu vois. Tu sais, ou un truc comme ça, un crâne fourni de diamants. Et ta 50 Cent, tu fais OK. Et là, il suit le gars jusqu'en Irak. Voilà. Et il le défonce. Non, mais il n'y a pas que des films, il y a Caillou, il y a des jeux vidéo, il y a Caillou aussi, Yann, tu vois.
Ça donne envie d'y jouer.
Et franchement. C'est rigolo.
C'était sympa. Ouais.
Ah ouais, parce qu'en plus,
c'est forcément mieux qu'Expendables.
Les mecs qui ont écrit le jeu, ils se foutent de la gueule de 50 Cent en permanence, tu vois.
Ouais.
Genre, il y a un moment donné, il y a un mec qui cite des philosophes et tout ça, etc., etc. Il fait, ouais, j'ai lu, tu vois. Et puis, t'as 50 Cent, tu fais quoi? T'sais, donc, bref. C'est donc 50 Cent, que, ouais, à part qu'il ait fait son film, là, Get Rich or Die Trying, là.
Ouais.
Avec Jim Sheridan, quoi. C'est... Je vois pas, facile, enfin, si, il a peut-être fait un ou deux films d'action.
Non, mais oui, ou des séries Z, quoi, qui sont sorties en vidéo club, là. Mais,
voilà.
Mais faut bien que les gens, s'il y a des gens qui regardent cette émission qui sont pas déjà convaincus à la base, alors bien comprendre qu'il y a rien, pour moi, il y a rien à sauver. Il y a rien à sauver.
Non, et puis en plus, il y a rien à sauver. Et il y a aussi cette espèce, enfin, on a un peu rigolé quand même, hein. Moi, j'ai un peu rigolé.
C'est tellement nul qu'il y a des moments où on a rigolé.
Voilà, c'est du Z absolu. Ah ouais. Et t'as quand même.
Il y a des Steven Seagal tournés en Bulgarie mieux que celui-là. C'est dire, hein, je mesure mes paroles.
Et ça coûtait 100 patates, et ça, tu peux pas y croire.
Non, moi, j'y crois pas une.
C'est pas possible, quoi. T'as envie de dire, il y a quelqu'un qui a blanchi de l'argent, lâché une image, là.
Puis après, voilà.
Ils ont épongé les dettes d'un Olympus Asphalène 3, là, ou je sais pas quoi.
On a pu se marrer un peu, on peut en avoir rien à foutre, se dire que c'est la dope. Ça fait quand même un peu yesh. Tu vois, sur la base du premier concept Expendables, qui était quand même une idée plutôt
marrante. Ouais, mais moi, je pense que ça aurait dû rester un seul film, en fait.
Et ça aurait dû rester un seul film, ça. C'est oh, allez, au pire deux, un peu mieux, si le deuxième avait été un peu mieux torché ou fait par Stallone, mais pas plus que ça. Et terminé aussi lamentablement, c'est triste, quand même.
Et sans Steven.
Et sans jamais Steven.
Bah, parce qu'à un moment donné, en fait, c'est quand même et le truc auquel ils tournent autour du pot. Ils ont mis Van Damme. Ils ont mis Mel Gibson.
Alors, au début,
Steven, il est où, bordel?
Parce qu'au début, t'avais des questions d'ego. Hein, bah, regarde.
Si tu fous 100 millions, t'en files 50
Van Damme
à Steven.
Mais pas au départ, puis il l'a fait. Puis on sait qu'il y a des fights entre Van Damme et Seagal et tout ça. Puis bon, Seagal est devenu fou aussi. Puis j'en ai plus rien à foutre depuis 20 ans.
Parce qu'il a toujours été fou, Steven.
Voilà, maintenant, il fait la promo de Poutine en Russie. Donc, ouais, je pense qu'il est passé à autre chose. Hein, donc, voilà.
Ouais, mais bon, tu vois. Non, mais à ce stade, en fait, c'est à ce stade, c'est vrai que t'as envie de dire pourquoi. Enfin, je veux dire, si vous mettez pas des Steven Seagal, si vous mettez pas des mecs comme ça, si vous mettez des Andy Garcia, si vous mettez des Megan Fox, pourquoi il y a pas Gérard Depardieu? Pourquoi il y a pas.
C'est
pourquoi
il y a pas.
C'est pas ça.
C'est vrai, non, mais.
Faire n'importe quoi, tu vois.
C'est ça.
Quoi, tu vois. Et au moins, ça sera rigolo. Oh,
ouais. Sais qu'est-ce que tu vois. C'est vrai, c'est ça, c'est hallucinant. Couille, quoi, tu vois. C'est non, mais c'est vrai, parce qu'à ouais. un moment donné, t'as un qui en peut plus, ça y est, tu vois. Mais voilà, tu vois, faites n'importe quoi et faites un peu joyeusement, quoi. Tu vois.
Ouais. Je sauf sais que pas, t'as ouais. n'importe quoi dans le bon sens et puis t'as le n'importe quoi qu'on a vu, parce que ce qu'on a vu c'est quand même du grand n'importe quoi.
Voilà, et à ce stade en fait tu sors quand même, alors moi je peux pas dire que tu sors en colère d'un film comme ça, parce que à la limite vaut mieux en rire, mais le truc c'est que encore plus que le 3 qui était déjà un contresens, tu vois, t'as l'impression en fait vraiment que le public de base ils le prennent vraiment pour un débile mental, quoi.
Bah, c'est surtout tu vois, moi c'est ce que je te disais tout à l'heure, je vois ça, je sais pas à qui il s'adresse.
Apparemment, moi, personne, puisque personne n'est allé
très clairement à qui s'adresser au moins les deux premiers, aller voir le 3 en ressortant quelques mecs qu'ils avaient oubliés. Tu peux comprendre, ça s'adressait à nous, type de public qui avions kiffé ce genre de film. Ça nous faisait marrer de revoir nos icônes de jeunesse faire les cons en mode papy. Mais là, moi, quand on me sort 50 Cent, Megan Fox, Andy Garcia, je suis là, mais de quoi vous parlez?
Et puis,
je sais pas.
Et puis, à ce stade, en fait, si tu veux, il y a un truc, c'est que tu peux même pas, parce que à la limite, les petits plaisirs qu'on pouvait avoir à l'époque dans le premier, ces espèces de concepts de fight qui n'étaient pas toujours bien aboutis, hein, faut être honnête, hein, c'est-à-dire Jet Li contre Dolph Lundgren ou comment dire, je sais plus, Stone Cold Steve Austin contre Randy Couture. Bon bah là t'as Iko Uwais contre Jason Statham, c'est nul.
Ouais.
C'est nul parce qu'en fait le truc c'est que comme ça se passe sur le paquebot pendant une heure, tu vois, c'est l'art Titanic, je te dis, moi c'est voilà,
c'est
le Titanic Z là, c'est qu'en fait à un moment tu te dis mais en gros ça pourrait se passer n'importe où, n'importe comment, tu vois, c'est juste que vous avez décidé de changer de décor, tu vois, et ça limite quand même énormément la casse aussi en fait en termes d'argent. Tu peux pas me faire croire que ça a coûté si cher, quoi, tu
vois. Il y a pas une idée, il voilà. y a plus une idée de fight, c'est-à-dire le cœur même du truc c'est quand même essentiel, de l'action, il y a plus rien,
et t'as le retour, et donc à la fin t'as le retour de Stallone.
Ouais, effectivement.
Voilà, ou donc en fait, si tu veux, parce que.
Bah, tout est réglé en deux secondes.
On a quand même eu un fou rire parce que, après la fight entre Statham et Iko Uwais, t'as encore une scène où t'as Statham qui essaye de se sacrifier.
Ouais, c'est ça.
Donc,
c'est
là, d'un seul,
c'est avec des ralentis.
C'est avec des ralentis, avec de la musique, un petit peu, tu sais, comment t'appelles ça, épique et émotionnel en même temps, si tu veux, genre comme si t'étais dans un Denis Villeneuve ou je sais pas quoi. Tu vois.
Scott,
ouais, voilà, tu sais. Voilà, et en fait, en gros, si tu veux, t'attends, tu te dis, alors moi, je me suis baissé vers toi, je t'ai dit, ça va être étonnamment émotionnel, comme encore une fois, tu vois. Et en gros, là, t'as comment il s'appelle, t'as Andy Garcia, toujours avec son petit béret, sa gaine là, tu vois, pour cacher le truc, qui lui dit on va se foutre sur la gueule, viens.
Ouais, là, on a
explosé de
rire. On va pas y avoir Statham contre Andy Garcia, c'est pas possible.
Voilà, c'est ça. Et donc là t'as Statham qui descend, attends moi j'arrive, tu vois, genre on va se mettre sur la gueule, ah ouais, au chelas on y va, tu vois. Et en fait même le film s'est dit non.
même ça on n'y croit pas.
Voilà, donc en fait t'as l'hélico de Stallone qui arrive, qui envoie un coup, une rafale dans la gueule de d'Andy Garcia, parce que Andy Garcia c'est lui en fait, Ocelot, c'est le méchant, tu vois, il en fait un steak tartare. Le truc là, t'as un plan assez joli, c'est assez marrant là.
En le fait, plan Goras là, tout c'était caché par terre.
Par terre et tout, quoi. Et hop, tu vois, en voilà. Fait, petit rappel, et t'as Stallone qui explique en 2-2, tu vois.
Et
alors j'ai fait ça pour ça. Et là, ça devient Usuel Suspect.
Ah ouais, c'est clair.
Ça devient. Il t'explique comment il a fait tout son plan, comment il a survécu. Tu fais, mais.
N'importe.
Ah, mais c'est n'importe quoi. Et, voilà. Et là, il a foutu. Parce que c'est quand même le grand gag final, tu vois. C'est qu'en fait, mais c'était qui le cadavre tout cramé, là, toute la merguez, là, tu vois. Et ben, il a foutu, en fait, un espèce de petit trou du cul. Là,
de la première scène de fight dans
voilà,
le bar.
Qui lui avait piqué, sa bague, là, tu vois. C'était tout l'objet de cette baston dans le bar au début, hein. Et tu fais, ok.
C'est,
voilà.
C'est en dessous tout, quoi.
C'est voilà. C'est écrit, alors, par. Alors, j'ai pas retenu tous les noms, mais c'est écrit par Kurt Wimmer.
Alors, ouais,
Kurt
peut-être qu'il a écrit un truc bien et puis des mecs sont venus écrire par-dessus, ou c'est l'inverse.
Parce que Kurt Wimmer, il est connu pour être l'un des scénaristes de l'affaire Thomas Crown de MacTeam. Enfin bon, tu vois, je veux dire, voilà. Le reste de sa carrière, c'est Equilibrium. C'est, comment ça s'appelle, Ultraviolet.
Ouais, voilà.
Avec Machinette. Avec, comment elle s'appelle, merde. Ah putain, aide-moi, Alain.
Charlize.
Mila Jovovich,
un stéroïde d'ultraviolet.
Ah, ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on en parle, Mais on avait fait un petit sondage dessus et les gens étaient pas pour. Hein.
Non, c'est bon. Ça, je peux comprendre.
Voilà, ultraviolet. Ah ouais, mais c'est tu l'as vu?
Oui, je l'avais vu, je m'en ai pas rigolé.
C'est gogolito possible.
Ah, mais
quoi.
Bah oui.
Voilà. D'ailleurs, Mila Jovovich, elle n'est pas dans Expendables, c'est pas normal. Hein.
La plupart des trucs qui sortent aujourd'hui, c'est gogolito.
Non, mais d'accord, mais Mila Jovovich dans Expendables, elle est où?
Oui,
on l'attend.
Par exemple,
hein, ça pourrait être, tu vois, ça pourrait être une bonne idée.
Oui, non, c'est sûr.
Tu vois et ouais, donc en fait, Kurt Wimmer, Equilibrium, machin, enfin que des films de, c'est pas possible, quoi. Tu vois, donc oui, effectivement.
Après,
et franchement... puis non, mais là, ils ont tous touché le chèque. Je veux dire, ils en ont rien à foutre. Personne qui a rien à foutre, quoi.
Non, rien à foutre. Même les nouveaux qui arrivent, t'as l'impression qu'ils n'en ont rien à foutre. Donc,
rien à défendre.
Et puis ça fait, c'est triste parce que là, il arrive aussi un stade où tu dis faut arrêter. Enfin, genre même Dolph Lundgren, on sait le pauvre qui est sorti quand même, qui est sorti d'une longue période de cancer là.
Ouais, il a une convalescence aussi avec son genou là récemment.
Le vois, tu vois Stallone, tu vois la gueule de 50 Cent, tu vois, hormis Jason Statham, t'as tous envie de dire là faut arrêter, là c'est plus possible parce que t'es même plus crédible juste en mettant un uniforme, t'es plus crédible quand même quoi. Donc il y a ce côté triste, c'est ce qu'on disait, que Stallone, ça passe encore quand il va faire un Tulsa King, parce que bon, il met son petit costard, il est très vieux, mais il n'est pas là pour sous-tir la gueule, c'est juste de la grande gueule. Là, tu viens voir des mecs physiques. Et en fait, voyons.
Ouais, puis en fait, il y a ce truc où tu te dis, encore une fois, je veux dire. Bon, je sais bien qu'il y a de la suspension d'incrédulité dans un film comme ça, tu vois, il faut vraiment la mettre très très haut, mais
ouais,
le truc, si tu veux, c'est que essayer de te faire croire que le personnage de Stallone va crever, alors qu'en fait, il crève pas dans Rocky.
Non,
alors qu'il a un cancer, tu vois, dans Creed ou je sais pas quoi, il crève pas dans Rambo 5, non, si tu veux, alors que machin, et que Stallone, il a jamais accepté que ses persos meurent, tu te dis, mais pourquoi ?
Gloire au passage de Steven Seagal, que d'avoir accepté de mourir dans Executive Decision.
Ouais, mais.
Et il ne revient pas à la fin.
Mais il l'a fait
c'était magnifique. C'est une des plus grandes séances du cinéma d'action.
Tu sais pas, parce que si ça se trouve, ce que tu sais pas sur Ultimate Decision,
c'est qu'ils ont pas voulu.
C'est qu'ils ont tourné, non, ils ont tourné une scène où il survit, mais en fait, ils lui ont dit, ouais, tu vas survivre, et ils ont coupé au montage.
J'y crois pas.
Mais pour c'est moi, tu sais, j'ai un débat là-dessus. Je pense qu'il est encore vivant, son personnage. je pense qu'il est accroché à la carlingue ou un truc comme ça, tu vois, et que l'avion a atterri, il était derrière, et puis.
Bon, on fait trop de digressions là.
C'est dépoussiéré, et puis c'est bon. Non, on fait pas trop de digressions, Yann. Tu vois, si tu veux, on pleure. C'est un
ouais,
jour
c'est
triste.
Un peu triste. Là,
c'est un
fin,
jour un peu, voilà.
La
tu
fin
vois.
Définitive d'une franchise.
Et d'une époque aussi, parce que je vois pas trop comment Stallone y pourrait revenir. Enfin,
non,
évidemment, moi, j'ai pas vu Tulsa King, je vais regarder. Et c'est probablement relativement sympathique. Mais
c'est parfait ce genre de truc. Comme moi, je t'ai dit, je pense que c'est con de pas avoir fait ce spin-off avec Statham. S'il y en avait un qui pouvait encore. Je parle de l'état d'esprit sans être la promesse du concept de mettre des vieilles stars d'action, mais de jouer dans l'univers d'Expendables avec un mec qui est encore physique, qui peut encore faire des trucs super cool.
Enfin, t'aimes bien toi Jason Statham, je veux dire, il y a des films que t'aimes bien.
J'ai vu des passages que j'aime bien, je veux pas dire des grands films, mais ils auraient pu faire un truc qui aurait pu être sympa dans cette puisqu'on est à la période des métaverses de merde et des spin-offs dans tous les sens. Voilà, tu fais l'histoire de Christmas, au moins t'as un mec qui sait se battre, t'aurais eu de l'action, ça aurait été frontal, t'aurais fait des petits clins d'œil à la franchise, ça aurait été marrant, tout le monde aurait été content et ça aurait ciblé son public. Là, moi, je comprends plus, tu vois. Donc voilà.
Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est parce qu'en fait, vu que ça s'adresse aux gens qui aiment Stallone, vu que ça s'adresse aux gens qui aiment tous ces trucs-là, je veux dire, je veux dire, en gros, pourquoi t'essayes de leur faire croire que Stallone y crève dans le film,
Et puis je préférais, tu vois.
Tout ça pour le foutre dehors, parce qu'en fait, en gros, il a pas envie de s'emmerder.
Et puis
quoi.
On sait qu'il y en a qui acceptent, enfin, Randy Couture, Statham, Lundgren, ils te disent tous, bon, ok, je veux bien qu'ils prennent des chèques, mais il y a aussi ce côté, on se retrouve entre vieux briscards, et puis on se marre, on s'amuse le temps d'un tournage. Moi, je serais Stallone, mais c'est là où tu vois des fois que Stallone, bon, il fait des trucs brillants, et puis il a le pif des fois, mais à l'opposé de là où il devrait être. Et quand tu fais un Tulsa King, je sais pas, moi, tu dis à Taylor Sheridan, tu dis aux autres, mais on fait un recurring character avec Dolph Lundgren dans la saison 2.
Ah oui.
Il vient, il joue un vieux tueur à gages, un vieux massieux. T'assumes le côté personne âgée, icône du passé, mais t'essaies pas de leur faire croire qu'ils vont quand même, tu vois, continuer à porter un M40 et à shooter des mecs en sautant dans tous les sens. C'est pas possible.
Surtout qu'ils y arrivent même plus
dans
les plans d'ensemble, au ralenti quand ils marchent tous ensemble.
C'est
quand même chaud, quoi.
Voilà, bon, bref.
Bon.
Voilà.
Expendables 4, voilà. Sorti en salle le 11 octobre dernier.
Qui sera sur les plateformes 2 jours après. rayon discount 3 jours après. Ouais. Et que tout le monde aura oublié.
Sur après. RTL 9, voilà, 5 jours après.
RTL 9 dans 3 semaines.
Voilà, c'est la triste vie.
Et il sera perçu plus tard dans quelques années comme la curiosité qu'il faut avoir chez les cinéphages malades, tu vois, dans un coin de sa bibliothèque. Tu dis, j'ai encore Expendables 4 quelque part. Et les mecs font, waouh, putain, il est introuvable. Tu m'étonnes.
C'est le fabuleux destin d'une vie de cinéma,
voilà,
d'un film,
ça.
Comment dire, dans toute sa distribution.
Voilà, c'est ça.
Bon, merci Yannick.
Bah écoute, avec plaisir.
Un grand merci à Alain qui
merci
me souffle
Alain.
Les noms des grandes actrices
qu'on a oublié
au fur et à mesure que mon cerveau atteint par tant de films d'action merdiques, commence à oublier, quoi, parce que moi aussi je vieillis, on vieillit. Hein.
On vieillit tous.
Voilà, on est tous les Expendables de la critique, hein, il faut le dire.
Ouais,
quoi,
non, mais c'est clair.
Nous aussi, on va finir à l'EHPAD.
Mais puis c'est marrant, et pour finir, quand même, c'est marrant parce qu'on se disait ça tout à l'heure. C'est-à-dire pendant un moment, si tu veux, ce cinéma-là, avec tous les défauts qu'il avait, était quand même pour nous une façon de contrebalancer le cinéma d'action moderne, totalement immaculé, épuré, politiquement correct et chiant, qui nous casse les couilles depuis 20 ans des Fast and Furious au Marvel. Et que t'en arrives à dire, non, putain, vous étiez l'étendard d'une résistance. Résistance a totalement disparu pour qu'on en arrive à dire que Fast and Furious X, c'est un chef-d'œuvre à côté d'Expendables 4. Faut être honnête. Donc quand t'en arrives là, tu dis.
C'est deux trucs de production différents aussi. Hein.
Évidemment.
Tu vois, t'en as un qui a coûté 500 patates et l'autre qui en a coûté 100, quoi. 100. 100
t'enlèves les 100 patates et les effets spéciaux, aussi débiles puissent être Fast and Furious 10, il y a quand même un chouille plus de fun que j'en ai retiré. Expendables 4, quoi.
Je pense que pour le coup, Louis Leterrier s'amuse plus en faisant ce film-là que Scott Vaux il fait sur Expendables 4, même si, à mon avis, on lui a laissé rien faire tout, quoi. Voilà. Donc, tu me laisses finir l'émission. Merci Yannick. Merci à la technique, à la production, tout ça, etc., etc. C'est mon Banderas à moi, c'est mon jeune, tu vois. Voilà, quoi. Merci à vous tous qui nous suivez. Et puis, on se retrouve bientôt avec des nouvelles aventures, Yannick, hein, n'est-ce pas ? Voilà, parce qu'on va pas quand même lâcher la rampe comme ça.
Exactement.
Voilà. Allez, merci à tous. Ciao. I don't know what you heard about me. Put a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.